Il est 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, pour l'émission À toi les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Alors, vous le savez, durant cet été, je parle pas des mois, mais je parle de la saison, c'est-à-dire du 21 juin jusqu'au 23 septembre. Eh bien, je vous ai proposé des émissions un peu différentes d'À toi les étoiles que celles que vous avez connues jusqu'à présent, puisque je suis allé à la rencontre de personnes qui font de l'astronomie leur métier ou leur passion sur les lieux où ils exercent ce métier ou cette passion. Alors, l'été est terminé, je reviens dans les studios, nous reprenons l'émission telle qu'elle était avant l'été, donc avec des invités en direct dans les studios ou alors par téléphone, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Je reçois donc aujourd'hui Monsieur Jean-Eudes Arlot. Monsieur Arlot, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission À toi les étoiles. Alors, le thème de cette émission aujourd'hui, donc, c'est Pluton n'est plus une planète, enfin, on va dire, est quand même une planète, mais du système, n'est plus du système solaire. Et on va en parler plus en détail dans cette émission. Juste préciser une chose, à savoir que avant les vacances, vous pouviez intervenir en direct et durant l'été, vous ne pouviez pas, étant donné que les émissions n'étaient pas en direct. Et bien maintenant, puisque c'est en direct, vous pouvez interagir en direct en téléphonant au 01 34 70 97 79 ou en envoyant des messages via le net au www.idfm98.fr. Alors, monsieur Jean-Eudes, vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Institut je reprends mes petites notes, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, et vous travaillez aussi à l'Observatoire de Paris-Meudon, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, première chose, expliquez-nous un peu quel est votre rôle en tant que chercheur.
Oh, alors en tant que chercheur à l'Institut de mécanique céleste, notre but est d'expliquer, de pouvoir calculer les orbites des planètes et de tous les corps du système solaire. Mais de les calculer avec une très très grande précision, surtout pour guider les sondes spatiales qui s'en vont à travers le système solaire et aussi pour essayer de comprendre la formation et l'évolution du système solaire.
Alors justement, le système solaire, on connaît depuis 1930 le système solaire avec 9 planètes. On a découvert donc en 1930 la dernière planète du système solaire, Pluton. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette découverte ?
Alors en 1930, en fait, c'est l'aboutissement d'une longue recherche. Mmh. Il faut revenir au 19e siècle, où Le Verrier, qui était astronome à l'Observatoire de Paris, a découvert une planète rien que par le calcul. Il regardait, il observait les planètes, et en observant un mouvement un peu qui ne correspondait pas à ce qu'il attendait pour Uranus, bah, il s'est dit, il doit y avoir une autre planète qu'on ne connaît pas. Donc il a fait des calculs et il a dit cette planète doit être à tel endroit dans le ciel. Les observateurs ont braqué leur télescope vers cet endroit et ils ont effectivement découvert une planète. Donc c'était extraordinaire de penser que par le calcul on pouvait dire bah là il doit y avoir une planète. Alors ce qu'on s'est dit, bah s'il y en a une encore un petit peu plus loin, on doit pouvoir faire la même chose. Donc on a fait la même chose avec la dernière planète qui était Neptune, donc maintenant, et on s'est dit eh bien il doit y avoir une 9e planète à tel endroit. On a cherché et on n'a rien trouvé. Alors on a dit, bah, elle doit être un petit peu à côté. Alors on a cherché longtemps, longtemps, et on a fini en 1930 par la découvrir. Mmh. Alors on s'est dit, bon, bah, on a refait le même coup que la dernière fois, on a découvert une nouvelle planète. Et puis on s'est rendu compte, peu après, que finalement c'était par hasard qu'on avait trouvé cet astre, que ça n'était pas vraiment une planète, c'était tout petit. Alors bon, comme c'était la dernière planète, on a gardé pendant longtemps le nom de planète. Mais bon, et un jour, il a bien fallu se décider à changer les définitions. C'est un petit peu normal.
Alors justement, là j'ai une première question internet qui vient de tomber sous mes yeux, là où il y a Jean qui nous demande, alors il a fait un long message, donc on connaît le système solaire qui est partagé en deux parties, on a les planètes telluriques de Mercure à Mars, et ensuite les géantes gazeuses à partir de Jupiter. Pluton est-elle considérée, donc sa question est la suivante, Pluton est-elle considérée comme une planète tellurique ou une planète gazeuse?
Eh bien justement, c'est bien parce que ça n'est ni l'un ni l'autre qu'on l'a déclassée et que ça n'est plus une planète. Pluton, c'est quelque chose de beaucoup plus petit que les planètes telluriques. On ignore un petit peu sa composition, mais on pense que c'est un astre glacé qui est fait de beaucoup de glace, ce qui n'est pas du tout le cas des planètes telluriques. Donc, ça n'est ni une planète tellurique, ni une planète gazeuse.
Non, c'est dur.
Oui, 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 allez-y.
Bonjour, monsieur, c'est...
Alors, attendez, il y a quelqu'un... On est à l'antenne, s'il vous plaît, merci.
Allô?
Attention, nous sommes à l'antenne actuellement, merci. Voilà, il y a quelqu'un qui a pris sur un autre poste, je suis vraiment désolé. Donc oui, monsieur... Monsieur Jean-Eudes Arlot, je suis vraiment désolé pour ce petit incident technique. Donc oui, vous disiez au sujet de Pluton que Pluton était donc une planète de glace, en fait, c'est ça?
Oui, ce n'est ni une planète tellurique ni une planète gazeuse. Ça fait partie de ces corps glacés qu'on trouve très très loin du Soleil.
D'accord. Donc, on a envoyé justement une sonde récemment, c'est la sonde New Horizons qui va aller voir de plus près cette planète Pluton pour justement la photographier sous toutes ses coutures, en fait, c'est ça?
Oui, en fait, c'est la Pluton considérée comme planète, ce serait la seule planète qui n'aurait pas été visitée par une sonde spatiale. Donc effectivement, on vient de lancer une sonde vers Pluton qui va nous donner beaucoup d'informations puisque Pluton n'a été approché par aucune sonde spatiale jusqu'à présent.
Alors en quelle année la sonde New Horizons arrivera au niveau de Pluton?
Là vous me posez une colle, mais c'est pas pour tout de suite parce que Pluton est vraiment loin, donc c'est vraiment dans plusieurs années.
Oui, je me doute, oui. Alors... Oui. On connaît Pluton justement avec avec une lune, la lune qui s'appelle Charon.
Oui, c'est ça.
Et cette lune est née de Pluton, ou est-ce que c'est un corps qui a été attrapé par la gravitation de Pluton?
Alors ça, c'est très difficile à dire parce que c'est des corps qui sont très loin, qu'on connaît depuis peu de temps. C'est probablement un astéroïde double. On a remarqué que beaucoup d'astéroïdes étaient doubles, soit qu'ils ont reçu un choc, et donc le système s'est construit à la suite d'un choc. C'est possible. Et donc ces deux corps qui volent l'un à côté de l'autre, sans qu'on puisse dire que l'un est plus satellite que l'autre. Alors dans le cas de Pluton, Charon est évidemment plus petit, donc c'est lui qui tourne autour de Pluton. Mais quand même, c'est des corps, c'est plutôt un astéroïde double qu'un satellite avec un satellite, qu'une planète avec un satellite.
Avec un satellite, bien sûr. Alors, on a découvert récemment, en plus de Charon, deux nouveaux satellites qui tournent autour de Pluton. Ça a été découvert par le télescope spatial Hubble en mai 2005 et ils ont été baptisés Nix et Hydra par l'Union Astronomique Internationale. Alors, ces satellites, ces lunes de Pluton sont en fait issus aussi de la formation de Pluton, ou est-ce que c'est tout comme pour Charon où on se pose cette question de savoir s'il a été capturé par le passage? Est-ce que ce ne serait pas en fait des objets transneptuniens?
Oui, alors, mais Pluton est un objet transneptunien.
Tout à fait. Oui.
Pluton, Charon et ses satellites représentent des objets transneptuniens puisqu'ils vont au-delà de Neptune. Et on a découvert énormément d'objets de ce type. Alors, c'est vrai que Pluton nous intéresse particulièrement parce qu'on le connaît depuis très longtemps. On a découvert ce satellite Charon en 1978, donc c'est relativement récent, et le télescope spatial vient de découvrir deux nouveaux satellites qui sont tout petits, aussi autour de Pluton. Alors ce sont probablement des débris d'une ancienne collision, et ces deux débris sont suffisamment gros pour qu'on les voit depuis la Terre, il y en a peut-être d'autres, mais on ne les voit pas, et sont toujours en orbite autour de Pluton.
Donc à suivre, on aura sûrement avec l'approche de New Horizons, parce que je pense qu'elle va pas observer que Pluton, mais qu'elle va en profiter aussi pour jeter un œil, si on peut dire, sur ses satellites Charon ainsi que Hydra et Nix.
Tout à fait, et on peut s'attendre à ce que la sonde découvre d'autres objets autour de Pluton.
Très bien. Alors, je rappelle que pour les auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent poser des questions en direct à notre invité au 01 34 79 97 79. Et puis aussi, comme l'a fait donc Jean, des questions par internet, par le www.idfm98.fr. Monsieur Jean-Eudes Arlot, nous allons marquer une première pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite. C'est l'émission À toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est Pluton n'est plus une planète du système solaire. Alors nous sommes en direct avec monsieur Jean-Eudes Arlot. Je voudrais remercier ceux qui envoient des messages via le www.idfm98.fr, notamment Zédric. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez poser des questions par internet et aussi par téléphone, surtout n'hésitez pas. Donc monsieur Arlot, j'ai eu le renseignement pendant la pause musicale en fait que la sonde New Horizons atteindra Pluton en 2015.
Oui, c'est tout à fait possible.
Voilà, donc
crédible. Il faut dire une chose, c'est qu'elle arrivera tellement vite qu'elle ne pourra pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle va passer au large de Pluton, mais elle ne pourra pas se satelliser autour de Pluton parce que sa vitesse sera trop importante. Donc elle aura très peu de temps pour avoir toutes les informations sur Pluton et son environnement.
Alors, est-ce que ensuite cette sonde sera perdue ou est-ce qu'elle va continuer
Elle sera perdue, elle va s'en aller, elle va quitter le système solaire.
Ah oui, et il n'y aura pas possibilité de l'utiliser comme on a fait avec Pionier, je crois, hein, c'est ça qui est parti aux confins du système solaire.
Oui, alors bien sûr, comme elle va partir, tant qu'elle va continuer à émettre, elle nous enverra des informations, ça c'est vrai, mais enfin son but principal c'est Pluton.
D'accord, donc on peut pas dire vraiment qu'elle sera encore vraiment perdue, on l'utilise. C'est un peu comme les robots en fait qui se trouvent actuellement sur Mars, je parle de Spirit et Opportunity qui sont utilisés tant qu'ils sont en état de fonctionnement en fait, la NASA va continuer à les exploiter hein.
Et tant qu'il y a du monde sur Terre pour s'occuper d'eux.
Bien sûr, bien sûr. Nous revenons donc à Pluton. Donc on parlait tout à l'heure de la découverte de la planète, un peu sa place dans l'univers, ses lunes. Alors là, c'est arrivé récemment. C'est le 24 août que là, c'est la commission, l'Union astronomique internationale, qui a rétrogradé Pluton, qui ne fait désormais plus partie du système solaire. Alors, on a désormais plus que 8 planètes dans le système solaire. Alors, d'où vient cette décision? Qu'est-ce qui a motivé les chercheurs à prendre cette décision et à la rétrograder?
Alors, je vais corriger ce que vous dites, parce que vous dites que Pluton n'est plus une planète du système solaire. Mm-hmm. Pluton appartient toujours au système solaire, mais Pluton n'a plus le statut de planète.
D'accord.
Alors, pourquoi? C'est pour une. Ça faisait longtemps qu'on disait quand même Pluton ne ressemble pas beaucoup aux autres planètes, mais enfin bon, on a dit que c'était une planète, c'est pas tellement gênant, on peut continuer. Mais il y a une question qui s'est posée, c'est qu'on a découvert au-delà de Pluton d'autres astres qui étaient plus gros que Pluton. Mm-hmm. Alors, s'il existe des astres plus loin que Pluton et plus gros que Pluton, la question se pose, est-ce que ce sont aussi des planètes? Donc, est-ce qu'il n'y a pas 9, mais 10, 11, 12 ou 13 planètes dans le système solaire. Donc ça, ça a été la question qui se pose depuis 2003, d'ailleurs, c'est pas récent, et il a bien fallu trancher. Mmh. Alors, ces corps qui sont gros, on a remarqué qu'ils étaient quand même nombreux. Hein, il faut dire que petit à petit, les télescopes sont de plus en plus puissants, donc on découvre de plus en plus de corps au-delà de Pluton, dont certains sont plus gros que Pluton. Alors, il y avait le choix, soit on disait c'est aussi des planètes, soit on cherchait une définition de planète, quelque chose comme quoi les planètes auraient en commun. Et en fait, on n'est pas allé vers cette définition directement. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit, après tout, les planètes, est-ce que ce ne serait pas ce qui est bien rond, bien gros et bien rond? Et dans ces conditions, c'était la première proposition qui a été faite à l'Union astronomique internationale, on aurait eu 12 planètes, puisqu'il y avait donc Pluton, Charon, Cérès et un gros objet qui s'appelle Eris et qui est au-delà de Pluton, en plus des planètes classiques. Eh bien, cette définition n'a pas été acceptée par les astronomes parce qu'on considère qu'une planète, ça doit être quelque chose qui est achevé au niveau de sa dynamique, de son mouvement dans le système solaire. Et donc c'est pour ça que Pluton s'est retrouvé exclu, parce que Pluton ne tourne pas rond autour du Soleil. C'est surtout la raison qui l'a exclu. D'abord, elle est toute petite, elle ne ressemble pas aux autres planètes, et elle ne tourne pas rond, puisque de temps en temps, elle est même plus proche du Soleil que Neptune, et elle recoupe la trajectoire de Neptune, et de temps en temps, elle est très loin.
En effet, donc oui, c'est toutes ces particularités-là qui font que... qui ont motivé les chercheurs à prendre cette décision. Alors j'ai une question internet qui est tombée pendant que vous étiez en train de donner vos explications. Là c'est une question de Stéphane qui nous dit puisqu'on a évoqué tout à l'heure le fait que Pluton serait une boule de glace, et il y aurait-il une possibilité d'avoir de l'eau sous la surface glacée ?
Oh, étant donné la distance entre Pluton et le Soleil et sa petite taille, l'existence d'eau serait sous forme de glace, mais sûrement pas liquide. C'est pas sur Pluton qu'il faut trouver de l'eau liquide. Ça, c'est clair que, bon, il y a probablement de la glace sur ou sous le sol de Pluton, mais c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Pluton est trop petit pour avoir une gravité suffisante pour réchauffer de l'eau.
Et alors, si parce qu'on a vu par exemple sur Terre, dans des endroits où d'après nous toute forme de vie serait impossible, on a vu à plusieurs mètres de profondeur dans la glace des êtres vivants. Moi, je parle pas, j'entends pas comme vous et moi, hein, mais une certaine forme de bactéries en fait. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité de trouver de la vie sur Pluton, de trouver des bactéries à l'état primaire comme ça?
C'est très peu probable, parce qu'il aurait fallu qu'il fasse chaud un jour sur Pluton pour que la vie se développe. Disons que la vie est capable de s'adapter à des conditions extrêmes, mais pas forcément d'apparaître dans des conditions extrêmes. Or, sur Pluton, les conditions extrêmes, c'est depuis toujours. Pluton n'a jamais vraiment été très très chaud.
Mmh. D'accord, donc c'était une chose à prendre en considération. Alors j'ai une question internet encore qui vient d'arriver à l'instant où justement les auditeurs réagissent à vos propos. Vous disiez que Pluton n'est pas une planète. Là j'ai c'est Jean encore qui me dit que Pluton serait en fait une planète naine.
Oui, alors, effectivement, quand on a déclassé Pluton, on a changé aussi la classification des objets dans le système solaire. Autrefois, il y avait les planètes, les satellites, les astéroïdes et les comètes. Eh bien, on a changé ça. Il y a toujours les planètes qui ne sont plus que 8. Il y a les satellites, c'est ce qui tourne autour d'une planète. Mais il n'y a plus les astéroïdes et les comètes. Il y a les planètes naines, qui sont des corps du système solaire qui ont une forme arrondie, c'est-à-dire qui sont suffisamment gros pour avoir acquis cette forme ronde. Et il y a les petits objets du système solaire qui rassemblent aussi bien les astéroïdes sous forme de gros cailloux que les comètes.
Alors, est-ce qu'on peut dire en fait maintenant que le système solaire en fait aurait trois catégories, les planètes telluriques, les géantes gazeuses et les planètes naines ?
Oui, mais il y a aussi en plus tous les petits corps qui ne sont les comètes et les astéroïdes qu'il faut rajouter.
Mmh. Une question de Sylvie qui nous demande, les objets transneptuniens après Pluton ne seraient-ils pas les résidus d'une planète qui n'aurait pas réussi à se former ?
Oui, on peut dire ça. Effectivement, tous les résidus, tout ce qui n'est pas planète dans le système solaire, comme les astéroïdes qui sont entre Mars et Jupiter, représentent des restes de l'origine de systèmes solaires qui n'ont pas encore réussi à s'agglomérer en planète et qui probablement finiront par être absorbés par les planètes existantes.
Et donc, il paraît, on dit que c'est les objets transneptuniens sont en fait un réservoir à comètes. On a beaucoup de comètes qui proviennent de cet endroit, je crois.
Alors, les comètes proviennent de... Il y a deux sortes de comètes. Il y a les comètes périodiques qui s'en vont effectivement jusqu'à au-delà de Jupiter, au-delà de Neptune. Ça peut être effectivement dans cet endroit-là. Mais il y a aussi les comètes qui viennent pour la première fois et qui viennent de très très loin. Elles viennent même de beaucoup plus loin. Donc il y a un réservoir à comètes, mais il est peut-être même au-delà des objets transneptuniens.
Donc intéressant à suivre aussi. Alors après Pluton, donc on l'a évoqué un peu, il y a d'autres planètes. On a aussi cette fameuse planète Xéna dont on a parlé il y a de cela quelques années déjà, hein, je crois qu'elle a été découverte.
En 2003,
d'accord. Donc sur Xéna, elle a été découverte comment cette planète ?
Bien, c'est tout simplement qu'on a des télescopes de plus en plus puissants, et avec ces télescopes, eh bien, on fait une surveillance du ciel, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir, on pose très longtemps pour faire ressortir des objets très très faibles, et quand il y en a un qui est très très faible et qui bouge, ça veut dire qu'il est dans le système solaire, on réussit, après l'avoir observé un certain temps, à avoir son orbite et à calculer sa distance. Et donc, ces télescopes puissants ont commencé à découvrir de plus en plus de corps au-delà de Pluton, effectivement. Alors, il y a Iris qui a été découvert en 2003 et qui est... Alors, justement, on en parle beaucoup parce que Iris est plus gros que Pluton, mais il y en a beaucoup d'autres.
Dont notamment Xéna.
Mais Xéna, c'est Iris. Quand Iris a été découvert, il a été baptisé 2003 UB313. Mm-hmm. Et... on lui donne d'abord un numéro, l'année, et puis l'instant dans l'année où il a été découvert. Et après, il va falloir lui donner un nom. Alors, c'est une procédure qui est longue. Et au début, certaines personnes ont proposé Xéna. Et puis finalement, ce qui a été adopté, c'est Eris.
D'accord. Donc voilà, pour les planètes du système solaire. Monsieur Jean, nous allons marquer une seconde pause musicale. Et puis, on se retrouve donc après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. N'oubliez pas les questions par Internet ou par téléphone. Il n'y a pas de problème. Monsieur Jean-Eude Arlot répondra avec plaisir à vos questions. C'est l'émission À toi les étoiles avec Franck, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, 13h-14h, en compagnie aujourd'hui de monsieur Jean-Eude Arlot, qui travaille à l'Observatoire de Paris-Meudon et qui est aussi directeur de recherche au CNRS, qui est le Centre National de Recherche Scientifique. Alors monsieur Arlot, nous parlions de Pluton, on va s'intéresser aussi aux autres planètes du système solaire, les huit autres on peut dire. On a parlé de, notamment tout à l'heure un petit peu de Neptune, Neptune qui est maintenant la dernière planète du système solaire. La particularité de cette planète, c'est qu'elle elle a une couleur bleue.
Oui, tout à fait. Quand on regarde les dernières planètes, les planètes géantes, qu'on a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on sait qu'elles sont faites d'une composition très très proche, quasiment identique, c'est à 95% de l'hydrogène, et pourtant elles ont des aspects très différents. Alors Jupiter est plutôt rouge et Neptune plutôt bleu, donc c'est vrai que c'est un petit peu curieux, mais ça provient de quelques traces de molécules différentes qui sont dans la haute atmosphère et qui vont colorer l'atmosphère de ces planètes.
Alors, on sait que sur les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont des anneaux. Ces anneaux sont dus à quoi, en fait ? De quoi sont-ils composés ?
Alors, ils sont composés de tout petits fragments, c'est vraiment tout petit. Ce sont des roches et de la glace. Principalement de la poussière et de la glace, une sorte de neige. C'est pour ça qu'ils sont en général très brillants. Et pourquoi sont-ils là ? Autour de Saturne, on comprend mieux parce que ça fait longtemps qu'on a vu un anneau très très gros. Il est, disons, en équilibre dynamique parce que par la gravité de Saturne et par l'existence de satellites au-delà de l'anneau. Et on retrouve ça, en fait, sur ces quatre planètes, bien que ce soit sur Saturne, où l'anneau est le plus beau et le plus gros.
Alors, est-ce que ce serait pas, en fait, dû à un satellite qui se serait formé et qui se serait désagrégé par la gravité de la planète, ou inversement, un satellite qui n'aurait pas réussi à se former ?
Effectivement, à l'origine, les planètes étaient environnées de poussière de ce type-là. Les satellites se sont formés, ils ont balayé l'espace autour d'eux, c'est pour ça qu'autour des satellites, on ne voit plus de traces de poussière, et à certains endroits, les satellites n'ont pas pu se former, tout simplement parce que la gravitation et les jeux de la gravitation de la planète et des satellites externes font que l'anneau reste tel qu'il est.
On va s'intéresser maintenant à la planète Pluton, qui est quand même la plus grosse planète du système solaire.
Jupiter, vous voulez dire.
Jupiter, oui, pardon. Oh là là, depuis tout à l'heure, nous sommes sur Pluton, donc c'est pour ça que j'étais... Jupiter, donc, qui est la plus grosse planète du système solaire. Il paraîtrait que ce serait en fait un soleil avorté.
Bah, disons que la composition de Jupiter, c'est 90% d'hydrogène. Donc 90% d'hydrogène, c'est un petit peu comme le Soleil. Alors pourquoi c'est pas une étoile ? Bah parce que la masse n'est pas suffisante. C'est-à-dire que la température au centre de Jupiter dépend de la masse, puisque plus la masse est grosse, plus la gravitation écrase les atomes et réchauffe les atomes qui sont au centre de l'astre. Donc comme ça n'est pas assez chaud, il n'y a pas eu de démarrage de réaction nucléaire qui en ferait une étoile. Jupiter n'est pas assez gros pour être une étoile.
Et quelque part, on peut se dire heureusement, parce que si Jupiter était une étoile, on n'aurait peut-être pas les conditions qu'on a aujourd'hui sur Terre pour pouvoir y vivre.
Ben, on aurait deux étoiles dans le ciel, donc il ferait peut-être toujours jour.
Oui, oui, mais je pense qu'il ferait peut-être un peu trop chaud sur la Terre pour que la vie puisse s'y développer telle qu'on la conçoit.
Oh, Jupiter est quand même beaucoup plus loin que le Soleil, donc même si Jupiter était une étoile comme le Soleil, ça ne grillerait pas, enfin, on aurait deux étoiles dans le ciel, c'est tout.
D'accord. Alors, on va passer maintenant aux planètes telluriques, et puis notamment la planète Mars, qui intéresse beaucoup les astronomes en ce moment. Je l'évoquais il y a quelques minutes, il y a deux robots actuellement, Opportunity et Spirit, qui sont en train de rouler sur sa surface. Je crois que j'ai entendu dire récemment par Monsieur Gilles Davidovich qu'il y a eu des découvertes importantes sur Mars.
Parce qu'on recherche, il y a deux choses qu'on recherche sur Mars. On recherche des traces de vie, mais ça, on n'en a toujours pas trouvé. Mais on recherche surtout de l'eau en souterrain. C'est ça qui est. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars et dans quelle quantité ? Alors, ça fait partie des recherches actuellement. Donc, on a des traces. On peut supposer qu'il y en a, mais enfin, c'est pas encore complètement acquis.
On a les sondes qui sont actuellement en orbite autour de Mars. Je crois qu'on a eu des images récemment d'une finesse très remarquable.
Ah bah oui, on connaît Mars de mieux en mieux, mais c'est surtout les robots qui sont posés sur Mars qui nous montrent des choses intéressantes, qui nous montrent exactement comment est faite la surface de Mars. Donc on retrouve un désert comme sur la Terre. Donc est-ce qu'il y a eu des lits de rivière ? Est-ce qu'il y a eu de l'eau ? Probablement, mais pas suffisamment longtemps pour que la vie puisse apparaître, apparemment.
Et vous, en tant que chercheur, vous avez périodiquement des nouvelles de ces robots ? Vous suivez l'actualité martienne ?
Ben, c'est-à-dire que nous suivons l'actualité martienne. Je vais vous dire ce qui nous arrive de faire, c'est que ces robots, ils ont tourné aussi leur caméra vers le ciel. Ils regardent pas seulement la planète Mars, ils ont tourné leur caméra vers le ciel et ils ont observé les satellites dans le ciel de la planète Mars. Et l'observation de ces satellites nous a été envoyée et nous analysons ces images pour en déduire les positions des satellites et pour essayer d'améliorer notre connaissance du mouvement des satellites de Mars autour de la planète elle-même. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire effectivement en relation avec les robots de la planète Mars.
Et je crois en plus que ces fameux robots, en observant le ciel, ont observé la Terre, la Terre telle qu'on la voit si on était sur Mars.
Ah bah oui, ils regardent le ciel et ils voient le Soleil, les satellites de Mars et la Terre qui brillent dans le ciel de Mars plus que Mars ne brille dans le ciel de la Terre.
Des images absolument fabuleuses. Ensuite, après la planète Mars. Alors, on a oublié une chose, c'est vrai, dans le système solaire, c'est qu'entre Mars et Jupiter, il y a une fameuse ceinture d'astéroïdes.
Oui, tout à fait. C'est très important, puisque c'est ça qu'on a découvert en premier. C'est-à-dire c'est en 1801 qu'on a découvert le premier astéroïde entre Mars et Jupiter. Alors justement, à l'époque, on a cru aussi qu'il y avait une planète de plus dans le système solaire. C'était Cérès, qui était d'ailleurs un astéroïde assez gros. Mais au fur et à mesure, on a découvert tellement d'objets, il y en a des milliers, des centaines de milliers, si ce n'est des millions, qu'on s'est dit, bah oui, c'est une famille d'objets tout à fait particuliers, c'est des astéroïdes qui sont en fait des témoins de la naissance du système solaire, il n'y avait que ce genre de corps, il n'y avait que des petits cailloux, des choses comme ça. Et là où les planètes se sont formées, les astéroïdes ont disparu, mais entre Mars et Jupiter, du fait des perturbations gravitationnelles de Jupiter, eh bien, ces corps ne se sont jamais agglomérés en planètes.
Alors, on a parlé tout à l'heure, parce que on peut dire aux auditeurs que pendant les pauses musicales, on s'entretient. Vous m'avez parlé aussi d'astéroïdes, et notamment d'astéroïdes géocroiseurs avec la Terre.
Alors, il se trouve que si la majorité des astéroïdes sont entre Mars et Jupiter, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui quittent cette zone de par des perturbations gravitationnelles et qui se rapprochent du Soleil, donc de la Terre. Donc la Terre recoupe régulièrement l'orbite de quelques astéroïdes. Alors là, effectivement, ça commence à devenir dangereux, puisque s'il y avait un choc entre la Terre et un astéroïde, cela pourrait faire beaucoup de dégâts.
Alors, il y a une surveillance quand même pour surveiller justement ces astéroïdes géocroiseurs ?
Alors bon, une collision entre la Terre et un astéroïde géocroiseur, c'est quelque chose de rare. Disons que la dernière fois qu'il y a eu quelque chose d'important, c'était en Sibérie au début du XXe siècle. Bon, et c'est quelque chose qui n'a même pas atteint la surface du sol. Ça a explosé avant, donc c'était quelque chose qui faisait quelques dizaines de mètres de diamètre, c'est tout. On connaît aussi une chute d'astéroïdes en Arizona il y a 100 000 ans. Encore quelque chose de quelques dizaines de mètres de diamètre. Et pour remonter à quelque chose d'important, il faut remonter à 65 millions d'années, où là, il y a vraiment quelque chose de très gros qui est tombé sur Terre en détruisant la majorité de la vie sur la Terre. Donc vous voyez qu'il ne faut pas non plus s'affoler, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc le but des astronomes, c'est de répertorier l'ensemble des corps dangereux. Donc actuellement, on a déjà commencé, on les a pas tous, mais on progresse et on pense que d'ici quelques années, on aura la majorité des objets dangereux dont on pourra étudier l'orbite et dire si un jour...
Dire si un jour... Monsieur Jean-Eudes, je vous ai perdu, décidément. Alors écoutez, bien, on va faire une pause musicale un petit peu forcée, et puis on va recontacter tout de suite Monsieur Jean-Eudes qui nous parlait actuellement des satellites géocroiseurs. Nous écoutons Mélanie avec Je suis né pour toi. C'est l'émission À toi les étoiles pour une dizaine de minutes encore. Nous avons récupéré Monsieur Jean-Eudes Arlot, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille aussi à l'Observatoire de Paris. Donc nous avons une coupure téléphone, des choses qui arrivent. Je l'ai récupéré, il est là. Donc nous étions en train de parler justement des astéroïdes géocroiseurs.
Oui, donc les astéroïdes géocroiseurs représentent un certain danger, mais actuellement les astronomes essayent d'en faire la liste la plus complète possible afin de calculer leur trajectoire et pouvoir prévenir plusieurs dizaines d'années à l'avance d'une éventuelle collision avec la Terre.
Alors, justement, là, j'ai une question Internet qui est tombée pendant la pause musicale où on me demandait si aujourd'hui on découvre qu'un astéroïde géocroiseur assez important qui risque de provoquer des dégâts tels ceux qui ont éteint les dinosaures il y a 65 millions d'années, est-ce qu'on a aujourd'hui un moyen de pouvoir détourner cet astéroïde ?
Alors, si on découvre un astéroïde dangereux, on peut penser que ce sera longtemps à l'avance. Comme on fait les prédictions de trajectoire plus de 30 ou 40 ans en avance, on peut dire qu'aujourd'hui, on découvre un objet en disant dans 30 ou 40 ans, il va heurter la Terre. Donc 30 ou 40 ans, ça nous laisse suffisamment de temps pour faire quelque chose. Alors faire quoi ? Ça, c'est la question qu'on s'est posée. En fait, c'est pas très difficile. Il faut pas lancer des bombes, tout ça, c'est pour les films de science-fiction, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est soit de mettre un petit réacteur sur l'astéroïde, ou même plus simplement de lui mettre une voile solaire. C'est-à-dire qu'on mettrait une grande voile, et le vent solaire détournerait l'astéroïde de sa trajectoire. On pourrait aussi le peindre en blanc, et en le peignant en blanc, il recevrait les rayons solaires d'une façon différente, il les absorberait moins, et cela le dévierait aussi de sa trajectoire.
Ah, en effet. Alors là, c'est passionnant. Vous m'apprenez des choses. Et alors, justement, est-ce qu'on a aujourd'hui les techniques suffisantes? Parce que pour faire, si on découvre aujourd'hui, bon, on se dit bon, à partir de maintenant, on a 30 ans. On a les techniques actuelles ou faut-il les construire, les fabriquer?
Non, on a tout à fait ce qu'il faut, d'autant qu'envoyer une sonde spatiale vers un astéroïde géocroiseur ne coûte pas très cher, puisque comme c'est un astéroïde qui frôle la Terre, il a une vitesse autour du Soleil similaire, donc ça ne coûte pas très cher d'aller sur ces objets.
Mmh. D'accord, eh bien merci pour cette information. Nous allons donc continuer notre voyage dans le système solaire. Nous l'avons pris à reculons, hein. Nous étions nous parlions de la ceinture d'astéroïdes. On arrive à notre bonne vieille Terre, notre planète Terre. Donc c'est elle qui nous héberge et c'est actuellement la seule planète du système solaire qui peut accueillir la vie.
Oui, alors c'est vrai que la Terre a deux voisines, Vénus et Mars, qui auraient très bien pu abriter de la vie. Vénus a exactement à très peu de choses près la même taille que la Terre, donc on retrouve la même gravité, on retrouve des choses similaires. Vénus a une très forte atmosphère, mais il y fait trop chaud. Il fait vraiment très très chaud, il fait plus de 400, entre 400 et 500 degrés, donc la vie n'est pas possible. Mais ça n'est pas la proximité du Soleil qui fait la chaleur sur Vénus, c'est un effet de serre dû à une très forte atmosphère.
Mmh. Donc là, effectivement, pour Vénus, et donc c'est bien la Terre la seule. Mais alors, une question qui vient de moi-même cette fois-ci, j'ai entendu parler de terraformation. Je crois que je me trompe pas sur le mot, qui serait en fait de changer la planète et de la rendre habitable.
En ce qui concerne Vénus ou Mars ?
Plutôt Mars, je crois. Il me semble que ça concernait Mars, oui.
Bah, Mars a une gravité beaucoup plus faible que la Terre, et puis il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est difficile de la rendre habitable. On ne peut pas fabriquer une atmosphère comme ça. Vénus, on pourrait dire, il y a une atmosphère très très forte. Est-ce qu'on pourrait réussir à la faire pleuvoir, je dirais, sur la surface de Vénus? Mais de toute façon, sa composition est telle qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a que du gaz carbonique, donc ce n'est pas très intéressant.
Mmh. Parce que, si vous voulez, je crois que c'était sur un site internet que j'ai vu ce document, qui disait, en fait, sur Mars, en créant un effet de serre, donc on parlait de faire un système de voile qui renverrait la lumière du soleil, parce qu'elle en reçoit déjà, mais ça accentuerait, donc ça ferait monter la température sur la planète, et introduire dans la fine atmosphère, parce que Mars a quand même une très fine atmosphère, des CFC, qui sont déjà un poison pour l'atmosphère de notre planète, mais ça créerait un effet de serre qui engendrerait une création une épaisseur d'atmosphère en fait, et en y apportant de l'eau et des bactéries, on arriverait, mais ça se ferait sur plusieurs millions d'années.
Bah, sur plusieurs millions d'années, si on réussit à augmenter l'effet de serre, ça augmentera la température, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'eau sur Mars pour que de l'eau devienne liquide et que le processus qui a eu lieu sur Terre se produise. Sans eau, il n'y a pas de vie.
Bien sûr, oui, bien sûr. On était donc sur la planète Terre, on a évoqué Vénus, et on arrive donc à la première planète après le Soleil, c'est la planète Mercure. Alors, chose qui est quand même assez curieuse, c'est que sur Mercure, il fait plus froid que sur Vénus, qui est pourtant Vénus, la deuxième planète après le Soleil.
Oui, mais c'est comme je vous ai dit, c'est pas tellement la distance au Soleil qui fait la température d'une planète. C'est plus la nature de son atmosphère. Alors, Mercure n'a pas d'atmosphère, donc le côté qui est exposé au Soleil est très chaud, évidemment, alors que le côté qui n'est pas exposé au Soleil, lui, il est très froid. C'est effectivement quelque chose de... Bon, un petit peu... C'est comme la Lune, je dirais. Mercure et la Lune, c'est vraiment le même type d'astre. Mmh. La température entre le côté vers le soleil c'est plus de 400 degrés et à l'ombre c'est moins 173 degrés sur Mercure, donc vous voyez que bon, c'est pas c'est pas extraordinaire pour la vie non plus, là.
En effet. Une dernière question, on a une question internet de Jean qui nous dit, on parle du système solaire, on a évoqué la vie dans le système solaire, mais cette personne aimerait connaître votre point de vue sur la vie ailleurs. Est-ce que pour vous, il pourrait exister une vie ailleurs en dehors du système solaire ?
Si on considère l'univers, oui. Parce qu'il n'y a pas de raison, étant donné rien que les probabilités, dans les autres galaxies, ou même à l'autre bout de la galaxie, on ne voit pas pourquoi il ne se serait pas passé la même chose que sur Terre. Donc la réponse est oui, mais on n'aura jamais aucun contact avec cette vie, donc c'est comme si ça n'existait pas. Si on prend des choses plus proches de nous, avec lesquelles on pourrait communiquer, les étoiles proches, alors là, c'est plus compliqué, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup d'étoiles proches avec lesquelles on peut communiquer, et comme il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être peu de chances que la même chose se soit passée comme sur Terre, ça c'est clair.
D'accord. Très bien, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles, il nous reste encore quelques minutes. Vous aviez quelque chose à rajouter, Monsieur Jean-Eudes Darlot, sur le système solaire, sur Pluton?
Ah, sur le système solaire, on a parlé de la vie, donc on peut aussi parler des satellites de Jupiter. Le deuxième satellite de Jupiter, c'est peut-être le seul endroit du système solaire où on a encore une chance de trouver de la vie, puisque c'est un satellite glacé, mais glacé avec un océan probablement liquide sous une banquise. Donc, qui dit océan liquide à une température tout à fait correcte, dit possibilité de vie. Donc, disons qu'on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités de trouver de la vie dans le système solaire.
Donc, faudra aller y voir.
Il faudra aller y voir, effectivement.
Très bien, on arrive donc au terme de cette émission À toi les étoiles, et comme le veut la tradition et dans cette émission, eh bien c'est l'invité qui donne le mot de la fin. Donc monsieur Jean-Eudes Darlot, le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est que j'encourage aux auditeurs à s'intéresser de très près à l'astronomie, parce que c'est vraiment une science de découverte permanente. Je suppose que la plupart des auditeurs qui écoutent votre émission sont intéressés, donc ils connaissent tous les sites internet sur lesquels on trouve ces magnifiques images, ces robots sur Mars qui ont envoyé en direct sur internet les images qu'ils voyaient à la surface de la planète. Donc c'est vraiment une science d'exploration et d'images qui est passionnante, donc j'encourage vos auditeurs à suivre toutes ces choses-là.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Eudes. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Il me reste un petit peu de temps pour vous donner le programme de la prochaine émission, donc qui sera le troisième mercredi du mois de novembre. Je recevrai des représentants de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Souvenez-vous, j'avais déjà fait une émission avec eux il y a de cela un an, en novembre 2005. Et puis, l'heure s'était passée tellement vite, ils avaient encore tellement de choses à dire qu'ils ont demandé à revenir. Donc un an, mois pour mois après, on peut le dire, eh bien ils reviennent pour dire encore toutes les choses qu'ils n'avaient pas pu le dire dans cette première émission. Autre chose aussi à savoir, à partir de décembre 2006, où on fêtera les 2 ans d'existence de cette émission À toi les étoiles, eh bien on démarrera une série d'émissions spéciales où je vais vous parler des missions Apollo. Monsieur Jean-Eudes, ça doit vous évoquer sûrement quelque chose, les missions Apollo, bien sûr, où l'homme a marché sur la Lune. Et nous aurons donc, parce qu'au début, si vous voulez, j'avais pensé faire une émission sur Apollo, mais c'est tellement un sujet passionnant qu'une heure n'est pas suffisante. Donc ce sera plusieurs émissions où nous parlerons tout d'abord de la genèse du projet, depuis le moment où c'était sur des papiers jusqu'au moment où le premier homme a marché sur la Lune. Et puis nous parlerons aussi de l'après-Lune. Donc ça, ce sera à partir de décembre 2006, et ça ira jusque février-mars 2007. Voilà pour le programme à venir. Vous allez maintenant retrouver le programme d'IDFM, la suite, ce sera Espace Jeune tout de suite, ensuite à 15h ce sera Éthique et Rap, et à 16h Bing Bang, 17h Fréquence Gouache, 18h 100% Musique, et puis bien sûr le programme de votre soirée. Monsieur Jean-Eudes, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, rendez-vous donc le troisième mercredi du mois de novembre pour une prochaine émission d'À toi les étoiles. Au revoir à tous.